Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réuniront samedi à Accra au Ghana, réunion pour évoquer notamment la situation politique au Mali. Notre invité sera Sédhi Kaba, journaliste expert de la géopolitique du Sahel. Au Liban, le président du Parlement sortant et seul candidat, Nabi Berri, a été réélu ce matin, un poste qu'il occupe sans interruption depuis 1992. La justice française ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort d'un journaliste de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imov, tué dans l'est de l'Ukraine hier alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Les prix continuent à augmenter en France. L'inflation a continué à accélérer en mai pour atteindre 5,2% sur un an. La barre des 5% n'avait pas été atteinte depuis septembre 1985. Face à cette inflation, plusieurs partis politiques et associations demandent un gel des loyers. Le logement reste le premier poste de dépense des ménages modestes, comme le soulignera l'ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé pour le 4 juin prochain à Accra, au Ghana. Le pays exerce en ce moment la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Le sommet sera notamment consacré au Mali. Gros plan sur la situation au Mali et son évolution, notamment après que la junte au pouvoir a annoncé quitter le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Entretien avec Sédhi Kaba, journaliste, expert de la géopolitique du Sahel, auteur notamment de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation. Sédhi Kaba.
Une situation qui s'est complexifiée de plus en plus. Et vous savez qu'au Mali, il y a eu le coup d'État dans le coup d'État. Le 25 mai 2021, la junte, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, avait renversé le pouvoir qui était lui-même issu du premier coup d'État du 20 août 2020, qui a renversé le président Ibeka. Et depuis cette date, les relations entre le Mali et la CEDEAO d'abord se sont complexifiées parce que le nouveau pouvoir malien, celui qui est issu du coup d'État de mai 2021, avait décidé de ne pas respecter l'agenda qui avait été précédemment convenu avec la CEDEAO et qui prévoyait la fin de la transition au Mali en février 2022. À côté de cette dégradation des relations avec la CEDEAO, le Mali s'est engagé dans un bras de fer diplomatique et même militaire avec la France, puisque comme on sait, en décembre 2021, l'ambassadeur de France a été expulsé du territoire malien et les relations depuis ne se sont pas améliorées jusqu'à ce qu'on arrive à la décision des autorités maliennes de renoncer à l'accord de coopération militaire avec la France. Et pour ne rien arranger aux choses, le Mali vient de décider de se retirer du G5 Sahel, qui est l'organisation commune avec le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, qui était dédiée à la lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, le Mali se trouve dans une sorte d'isolement diplomatique et dans une impasse militaire, parce que le Mali, à lui tout seul, ne peut pas faire face à cette insécurité. Et cette situation aussi s'est complexifiée avec le climat intérieur, puisqu'il n'est un secret pour personne aujourd'hui. Les libertés d'expression, les libertés de manifestation, les libertés d'opinion sont devenues de plus en plus problématiques sous le régime de la junte dirigée par Assimi Goïta.
Qui sont aujourd'hui les principaux adversaires au Mali de la junte au pouvoir?
Sur le front intérieur, la junte a essayé de réduire au silence la plupart des voix indépendantes. Et il n'y a pas à proprement parler une vie politique indépendante. Et aujourd'hui, si vous ne dites pas que le Mali doit asseoir sa coopération avec la Russie, si vous ne dites pas qu'il n'y a pas de mercenaires russes, qu'il n'y a pas de mercenaires de la cité Wagner au Mali, vous pouvez faire l'objet d'une répression. On a vu avec, par exemple, un des opposants les plus en vue, Omar Mariko, qui est aujourd'hui dans la clandestinité. Beaucoup de responsables maliens, l'ancien premier ministre, le dernier premier ministre de Ibeka, Boubou Cissé, s'est exilé au Niger. L'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Tiémen Koulibaly, s'est exilé en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas d'adversaire aujourd'hui à proprement parler de la junte parce que la junte a essayé de réduire au silence, y compris avec des méthodes parfois discutables. On se souvient du sort réservé à l'ancien premier ministre Soumaïla Bouvet-Mega qui est mort en détention, faute de soins et faute d'autorisation d'être évacué. Donc il y a aujourd'hui un climat au Mali qui n'est pas propice au retour à l'ordre constitutionnel, et on ne sait pas comment le Mali va s'en sortir de cette impasse à la fois sur le plan militaire, diplomatique et politique.
Concernant la société civile, quel est son pouvoir aujourd'hui au Mali?
Vous savez, la société civile au Mali a été le fer de lance de la démocratisation. En 1991, c'est la société civile qui avait créé les conditions du coup d'État qui a renversé Moussa Traoré. Et la société civile au Mali a été toujours très active jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État dans le coup d'État, c'est-à-dire le putsch de mai. Aujourd'hui, la société civile malienne est presque réduite au silence. Elle fait face à une répression féroce. Les voix indépendantes de la société civile ont été quasiment réduites au silence. Et il n'y a pas aujourd'hui de place à la liberté d'opinion, à la liberté de il n'y a pas aujourd'hui le pluralisme d'opinion qui a fait la tradition, qui a fait la solidité de la démocratie malienne. Tout cela a été bafoué par la junte. Aujourd'hui, il y a un recul grave des libertés au Mali, au point où les Nations Unies même s'en sont inquiétées.
Avec, vous l'évoquez, les membres du groupe Wagner qui sont présents sur le territoire malien. Qui sont ces personnes?
Oui, le groupe Wagner est un groupe que l'on connaît, un groupe russe qui n'est même pas de droit russe et qui a commencé à être visible en Afrique, surtout au niveau de la République centrafricaine, en RCA. Et plus tard, le groupe, après le départ, au prétexte que la France a abandonné le Mali en décidant de retirer Barkhane et en décidant de redimensionner Barkhane, le gouvernement de Choguel a appelé à contracter, a des relations contractuelles avec Wagner, qui a envoyé des mercenaires qui sont aujourd'hui aux côtés de forces armées maliennes, qui épaulent les forces armées maliennes et qui font l'objet de diverses critiques, y compris de la part de la mission des Nations Unies au Mali, des critiques d'exaction, des critiques d'abus, des critiques d'arrestation arbitraire.
Comment évaluez-vous la situation sécuritaire aujourd'hui au Mali?
Elle ne s'est pas améliorée. La situation sécuritaire s'est absolument dégradée et il y a simplement 3 jours, il a été fait cas des villages qui sont sous blocus de groupes armés terroristes. Des groupes ont décidé, dans la zone des trois frontières, entre Douenga et Bouzenga, des villages qui sont sur la zone des trois frontières, les groupes djihadistes ont imposé un blocus aux populations. La situation ne s'est pas améliorée. Il y a des attaques incessantes. Il y a des routes qui sont coupées par le groupe Wagner. La situation est très préoccupante et il n'y a pas de perspective d'amélioration puisque le Mali n'est pas dans la dynamique de la construction d'une solution à cette crise avec ses voisins. Le fait d'appeler la coopération russe ou Wagner ne suffira pas si le Mali ne rentre pas dans une démarche régionale, dans une solution régionale. Or, en se soustrayant du G5 Sahel et en ayant des relations aujourd'hui exécrables avec le Niger, le Mali ne participe pas à la construction de cette réponse sous-régionale, de cette réponse collective à une menace qui est devenue collective.
C'est Sédhi Kaba, journaliste expert de la géopolitique du Sahel. Il est notamment l'auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation. Au Liban, le président du Parlement sortant et seul candidat, Nabih Berri, a été réélu ce matin, un poste qu'il occupe sans interruption depuis 1992. Il a récolté au premier tour 65 voix sur un total de 128, ce qui constitue la majorité absolue. Ce sera le 16 juin prochain à la chambre d'appel du tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban, se prononcera sur l'arrêt lié à la condamnation de 2 membres présumés du Hezbollah, 2 hommes jugés coupables en appel dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri, tué dans un attentat à la bombe le 14 février 2005. Le TSL indique que l'audience de Hossein Ouneissi et Hassan Habib Meri, jugés par contumace, se déroulera à 14h par visioconférence et sera retransmise en direct sur le site du tribunal. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort hier de Frédéric Leclerc-Imoff, journaliste de BFM TV, tué dans l'est de l'Ukraine. Il a été tué alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire près de Severodonetsk. L'enquête de flagrance est confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Elle porte aussi sur les blessures subies par l'un de ses confrères présents avec lui lors du reportage. L'Union européenne va mettre fin à 90% des importations de pétrole pétrole russe d'ici la fin de l'année. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union sont convenus d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe. Le président français a souligné l'unité des 27 et leur solidarité à l'égard du peuple ukrainien. Israël a signé avec les Émirats arabes unis son premier accord de libre-échange avec un pays arabe. Les pourparlers en vue de cet accord avaient débuté en novembre dernier. Les Émirats et Bahreïn ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020. C'était dans le cadre d'une série d'accords négociés avec les États-Unis. Le Maroc a emboîté le pas, tandis que le Soudan a également accepté de normaliser ses liens avec Israël, même s'il doit encore finaliser l'accord. En Tunisie, le secrétaire général de la centrale syndicale UGTT appelle le gouvernement et la présidence de la République à faire état de la réalité de la situation dans le pays. Nourdine Tabboubi dénonce, dit-il, le mutisme de l'exécutif et il demande au gouvernement de trouver les solutions adéquates aux problématiques socio-économiques sans pénaliser les citoyens et la classe ouvrière. Les prix continuent à augmenter en France. L'inflation a continué à accélérer ce mois-ci pour atteindre 5,2% sur un an. La barre des 5% n'avait pas été atteinte depuis septembre 1985, depuis 32 ans. Face à cette hausse des prix, plusieurs partis politiques et associations demandent un gel des loyers. Si les loyers sont déjà encadrés dans certaines grandes villes comme Lyon, Paris ou encore Lille, le logement reste le premier poste de dépense des ménages modernes. Comme le souligne l'ancien député européen, éditorialiste au quotidien L'Humanité, Patrick Lejaric.
Dans le privé, c'est un système normalement qui est encadré, puisqu'il y a en général un contrat de location. Dans le public, dans les offices HLM, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en théorie, le loyer est moins cher. Aujourd'hui, on est dans un cycle infernal, puisque on a tous les ans la hausse naturelle des loyers liée au niveau de l'inflation, mais chacun comprend bien que dès lors que les salaires ou les pensions de retraite sont bloquées, augmenter les loyers au niveau de l'inflation, c'est-à-dire 4,5 à 5 %, augmente la charge pour les personnes qui sont locataires, alors que de toutes parts, les autres prix augmentent. Or, peser aujourd'hui sur le loyer, trouver le moyen de le bloquer, c'est aussi un moyen de bloquer les dépenses mensuelles ou trimestrielles des familles. Donc la demande, la revendication, elle est parfaitement justifiée. On ne peut pas continuer comme cela. D'ailleurs, c'est la même chose d'ailleurs pour les classes populaires, par exemple à propos des livrets d'épargne. Aujourd'hui, le livret A est rémunéré à moins de 1%, l'inflation est quasiment à 5%. Donc la même personne qui met de l'argent de côté, elle perd en valeur par rapport à ce qu'elle a mis, puisque normalement, une partie des loyers est rémunérée par l'épargne également. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un cycle infernal et il faut par tous les moyens sortir de cela.
À titre d'exemple, pour un loyer de 700 euros par mois, une inflation de 5% représente une hausse de 35 euros par mois et 420 euros par an.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire on voit bien qu'une famille de, mettons, 4 personnes, un couple et 2 enfants, entre l'énergie aujourd'hui, entre l'alimentation, simplement l'alimentation et en faisant attention, plus si c'est un loyer de 1500 euros à 5%, vous voyez bien que ça devient pour beaucoup de gens aujourd'hui intenable. Moi, je pense que peut-être nous sommes, de ce point de vue, au bord de la rupture.
Et vous soulignez qu'il s'agit du premier poste de dépense des ménages.
Oui, c'est le tiers. En général, le tiers de la rémunération d'un couple, elle passe aujourd'hui dans le loyer. C'est le premier poste de dépense et c'est extrêmement lourd.
Un blocage des loyers tel qu'il est demandé, cela a-t-il déjà été fait dans le passé?
Oui, il y a eu des initiatives. À Paris, Yann Brossat, sur un certain nombre de logements, pas tous, mais a promu un blocage de loyer. D'ailleurs, il y a eu un conflit avec les autorités juridiques et même avec l'État à ce propos, mais on ne peut pas laisser monter de manière exponentielle les loyers, sinon les gens, de toute façon, ne pourront pas payer. Et donc, le nombre de gens qui seront mis d'accord dehors et le nombre de gens qui seront mis en difficulté risque d'augmenter très, très sérieusement.
Avec cette difficulté parallèle, le resserrement de l'accès au crédit.
Il y aura, après la période qu'on vient de connaître où on avait des taux de crédit à quasi nul ou très bas, entre 0 et 2%, on est aujourd'hui dans une nouvelle phase un peu complexe. Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, donc inévitablement, quand on ira chercher un prêt à la banque, on aura un taux d'intérêt plus élevé, le 5, 6, peut-être 7%, parce qu'il y a un taux de rémunération de la banque, et donc l'accès au crédit et même le paiement de crédit déjà engagé, si ce n'est pas des taux fixes, vont peser lourdement sur le budget de ceux qui deviennent, par exemple, accédants à la propriété ou ceux qui prennent des crédits de consommation. Et il y en a beaucoup en ce moment, semble-t-il. Et donc, si on augmente le taux du prêt, le taux d'intérêt du prêt, évidemment, ça va peser très, très lourdement pour les accédants à la propriété qui s'engagent ou qui sont engagés ces derniers mois, même ceux d'ailleurs qui font des réparations dans leur logement ou qui vont acheter du matériel nécessaire pour, par exemple, pour la cuisine. Donc on est face quand même à une lourde problématique pour les familles populaires aujourd'hui et les catégories moyennes.
Et vous estimez que la question du logement doit être une priorité du gouvernement. Il y a eu quelques avancées ces dernières années, comme l'encadrement des loyers, par exemple, dans certaines métropoles.
Oui, il faut aller dans ce sens-là, il faut aller plus loin. Il faut maintenant que dans le quinquennat là, qui commence dès le mois de juillet, qu'il y ait des dispositions législatives qui soient prises rapidement pour la rémunération du travail, pour les salaires, ça c'est une question, et pour des blocages encadrés et bloquer un certain nombre de prix. C'est le cas des loyers, c'est le cas des produits de première nécessité, et c'est aussi le cas de l'énergie.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal en langue française, à 19h et 19h30, votre émission politique plurielle vous sera présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.